C'est quelqu'un qui a toujours été partagé entre la peur de l'enlisement, qu'on retrouve constamment chez lui, la peur de la lourdeur, hein, et le désir de s'évader. Et ça, c'est un motif qu'on retrouve. Souvent, il manquait d'air, d'ailleurs, il était très claustrophobe, en fait. Hein, il bougeait tout le temps. Hein. On retrouve ça pratiquement dans toutes ses pièces. Où on voit sans cesse le personnage, comme dans Le Nouveau Locataire par exemple, le personnage est envahi progressivement par les objets, on entasse autour de lui des meubles, 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 et puis, enfin, à la limite, il étouffe. Hein. Obsession qui se manifeste également, et c'est peut-être ça où aussi il est un auteur très moderne. Hein, on a souvent dit que le nouveau tragique, c'était l'individu opprimé par la masse. Tragique un peu kafkaïen. Et ça, on trouve chez Ionesco lorsque, par exemple, je ne sais plus de quel personnage, ne veut pas manger des pommes de terre au lard. On lui dit qu'il faut manger des pommes de terre au lard, il ne veut pas manger des pommes de terre au lard. Et il ne veut pas non plus faire des enfants, alors que le grand-père descend de son car pour lui dire il faut perpétuer la race, il faut faire des enfants. Et sans cesse, la tyrannie du groupe s'exerce sur l'individu. Et ça, c'est.
J'ai aussi remarqué ça, j'ai lu récemment un de ses romans, parce qu'il a fait aussi un roman, j'ai lu, c'était Le Solitaire, je crois. Et c'est exactement ça, c'est le personnage qui se met en retrait aussi à partir de 35 ans, après un héritage. Et il y a cette notion qui est très présente, je trouve, aussi.
Oui, on la trouve partout. Ça commence avec la cantatrice chauve, où les Smiths font exactement ce qu'il faut faire, ils mangent de la soupe anglaise, l'horloger elle-même est conformiste, puisqu'elle sonne, je crois, 15 coups anglais, et c'est quelque chose qu'on va retrouver partout, dans toutes ces pièces. Hein. C'est un anticonformiste. Et ça, c'est un des aspects, je crois, les plus importants. Il a vu le côté, le côté très dur de la société contemporaine, une espèce d'enrégimentement, hein, qu'on retrouve aussi bien même, souvent dans des formes presque un peu simplistes, dans Tueur sans gage, où il y a ce portrait de la mère Pipe, qui fait marcher ses oies, n'est-ce pas, au pas de loi. Bon, bien entendu, souvenir, et là aussi, je crois qu'il y a une dimension politique chez Ionesco, par exemple, à cause de son expérience personnelle. C'était quelqu'un qui était un profond démocrate, quoi. Il a eu très peur quand, très tôt, vous savez, la Roumanie, au fond, n'a jamais fait l'expérience de la démocratie, n'est-ce pas? Et très tôt est apparu ce mouvement fasciste de la garde de fer, et ça en Roumanie. Et ça se terminera par la dictature du maréchal Antonescu en 1940. Or, Ionesco a quitté à ce moment-là la Roumanie, il n'y reviendra plus jamais, puisque, en fait, il détestait les dictatures, quelles qu'elles fussent, hein, de droite ou de gauche, hein, puisque. À Antonescu a succédé Ceausescu avec le même nom, Cotugator, dans les mêmes douches. Hein. Et c'est quelqu'un qui viscéralement aspirait à la liberté. Hein. Et je crois d'ailleurs qu'une des pièces les plus importantes dans ce domaine-là, c'est quand même Rhinocéros. Hein. Puisque face à la peste du totalitarisme, finalement nazi, c'est ce dont il s'agit, et que pour lequel
les
les
gens qui se
écrivains,
transforment en rhinocéros.
voilà, pour lequel les gens, les gens ne trouvaient pas de nom, tellement c'était innommable. Comment nommer? Camus parle de la peste, René Char parle de la cellule cancéreuse. Et Ionesco a dit qu'il a cherché dans le bestiaire un animal qui pût désigner, hein, cette maladie de l'esprit. Parce que c'est bien comme ça qu'il le décrit dans Rhinocéros. Avec cette, vous avez vu, si vous connaissez la pièce, cet encerclement progressif.
Il y a son travail, etc. Il me semble que ça se passe comme ça au départ.
Oui, ben, c'est-à-dire il y a dedans le héros qui représente Ionesco, Béranger.
Oui, toujours Béranger d'ailleurs.
Oui, naïf. Naïf, idéaliste, bon. et qui, effectivement, un dimanche matin, se trouve dans un café avec son ami Jean, puis on entend un cri, tiens, un rhinocéros. Et on se demande d'où il vient. Bon. Et justement, à propos du choix de l'animal, il a dit qu'il avait choisi l'animal le plus bête, le plus méchant. Mm-hmm. Il ne peut pas choisir l'aigle, il ne peut pas choisir le lion, il a choisi le rhinocéros. Et c'est dans cette pièce qu'il montre comment, progressivement, le mal, la maladie, a gagné toutes les couches de la population, mm-hmm. puisque ça commence par Madame Boeuf, dont le mari est rhinocérisé, mm-hmm. et puis ensuite, par exemple, le logicien. Il y a un personnage là-dedans qui est très, très intéressant. Un logicien, c'est un philosophe qui ne s'occupe que du fonctionnement de la logique, et qui symbolise la spéculation dans ce qu'elle a au fond de plus élaboré. Et puis un jour, on le voit avec son canotier, les cornes lui ont poussé. Jean, son meilleur ami, devient rhinocéros et se met à parir en exposant quelques principes simples du nazisme, c'est-à-dire la seule loi que connaissent la nature est la loi du plus fort, etc. C'est cette fameuse séance où Béranger est complètement paniqué, et même sa fiancée, Daisy. Finalement, reflétant d'ailleurs ce qui a dû se passer en 40, quand les Français disaient que les Allemands n'étaient au fond pas si méchants, ils étaient convenables, et Daisy tient le même raisonnement, elle dit, mais au fond, ils sont pas si... Et on voit dans cette pièce, effectivement, si on regarde d'ailleurs le schéma spatial, c'est extrêmement intéressant, qu'on retrouve souvent chez UNESCO, c'est celui de l'encerclement. Mm-hmm. Hein, puisqu'ils viennent de l'extérieur, prennent successivement la caserne des pompiers, etc., puis à la fin, se trouvent au centre, c'est-à-dire dans la chambre de UNESCO, oui. de Béranger, dont même les tableaux de famille se sont rhinocérisés, allusion certaine au fait que la politique allemande exigeait l'arianisation, il fallait faire des recherches pour prouver qu'on n'était pas juif, jusqu'à la cinquième génération en arrière, tous ses ancêtres autour des camps, et il est tout seul, et il sera le dernier homme à résister, ce qui fait que la liberté n'est pas totalement partie. Donc, ce que je peux dire, c'est que en dehors de la question de son appartenance, je dirais, au théâtre d'avant-garde, hein, il faut, en recontextualisant, n'est-ce pas, à l'époque où UNESCO écrit, en même temps d'ailleurs que Beckett, bon, le théâtre français subit une mutation profonde. On va quitter ce que UNESCO appelle très méchamment le théâtre de patronage. Mm-hmm. Hein, c'est-à-dire ce théâtre, je ne sais pas, vous savez ce que c'était, non?
Vous nous en aviez parlé encore.
Voilà. Et qui est pour lui le théâtre didactique de Sartre et de Brecht et de Piscarolo, n'est-ce pas ? Vers un théâtre non politique, vers un théâtre qui rompt aussi avec la tradition d'un théâtre discursif, hein, que Ionesco appelle le théâtre policier. Et il met Corneille là-dedans aussi. Avec une intrigue, et il dit de toute façon on sait déjà ce qui va se passer. Donc un théâtre qui ne développe aucune thèse, mais qui est un théâtre fondé sur l'opposition de deux violences en fait, hein, thèse contre antithèse, dit-il, on va aller, dit-il, à une pièce de théâtre comme on va à un match de boxe. Oui. Et qui surtout, évidemment, joue à détruire le langage. Ces fameux jeux sur le langage, qui sont une des sources de son comique, finalement, en introduisant des personnages complètement irrationnels, qui parlent de manière tout à fait irrationnelle.
Théâtre de l'absurde, en fait.
Oui, c'est un peu ça, étant entendu que pour Ionesco, le comique, en fait, est l'intuition de l'absurde. Ça, c'est une de ses formules. C'est-à-dire que l'absurde n'est pas démontré, il est directement perçu et il est perçu dans l'action. Mais ce qu'il y a, c'est que, bon, maintenant, il est peut-être un petit peu moins joué, encore que, vous savez, la leçon est jouée constamment, hein, depuis toujours au théâtre de la Huchette.
C'est la cantatrice joue aussi.
Les deux. C'est joué depuis, il faut dire que le théâtre est petit, mais c'est constamment joué. Il est relativement... Il est connu aussi à l'étranger, en fait, c'est une... Mais pour le moment, il intéresse peut-être un tout petit peu moins les gens, ce qui ne veut pas dire que ça ne va pas revenir, parce qu'il y a toute une dimension chez lui qui reste à redécouvrir aussi, c'est sa dimension mystique. Bon, il était croyant, il était très profondément croyant, il avait été à l'école catholique, Il avait été en quoique de religion orthodoxe, il est mort